Le géant abattit sa main sur la table et tout trembla dans la pièce.
« Assez joué, Ptolémée ! Je vous ai dit que nous ne pouvions point attendre. Votre charte sera signée demain, je m'y engage, mais donnez-moi ce soir l'autre parchemin. Nous sommes dans la même partie, il faudra bien une fois me faire confiance. »
« Monseigneur de Valois n'est point en mesure d'attendre une seule journée ?»«
Non !»«
Alors, c'est qu'il a fort perdu dans la faveur du roi. » « Et bien soudainement, » dit lentement le banquier en hochant la tête. « Que s'est-il donc produit à Vincennes ?»
Robert d'Artois lui fit une brève relation de l'assemblée et de ses suites. Ptolémée écoutait, toujours balançant le front. « Si Valois est écarté de la cour, pensait-il, et si Marigny reste en place, alors adieu charte, franchise et privilège. Le péril à présent est grave. » Il se leva et dit « Monseigneur, quand un prince brouillon comme l'est le nôtre s'entiche vraiment d'un serviteur, on a beau lui en dénoncer les méfaits, il le pardonnera. Il lui trouvera excuse et s'y attachera davantage qu'il l'aura davantage couvert.
Sauf à prouver au prince que les méfaits ont été commis à son endroit. Il ne s'agit point de dénoncer l'archevêque, il s'agit de le faire chanter, la muselière au nez.
J'entends bien, j'entends bien. Vous voulez vous servir du frère contre le frère, cela peut réussir. L'archevêque, pour autant que je le connaisse, n'a pas une âme de bronze.
Allons, il y a des risques qu'il faut prendre. »
Et il remit à Robert d'Artois le document que Gutschou avait rapporté de Cresset. Bien qu'archevêque de Sens, Jean de Marigny résidait le plus souvent à Paris, principal diocèse de sa juridiction. Une partie du palais épiscopal lui était réservée. Ce fut là, dans une belle salle voûtée et qui sentait fort l'encens, que le surprit la soudaine entrée du comte de Valois et de Robert d'Artois. L'archevêque tendit à ses visiteurs son anneau à baiser. Valois fit mine de ne pas remarquer le geste, et d'Artois haussa vers ses lèvres les doigts de l'archevêque avec une si désinvolte impudence qu'on eût cru qu'il allait jeter cette main par-dessus son épaule.
« Monseigneur Jean, » dit Charles de Valois, « il faudrait bien nous expliquer par quelle raison vous et votre frère vous opposez si fort à l'élection du cardinal Duez dans l'Avignon, de telle sorte que ce conclave ressemble tout juste à un collège de fantômes. »
Jean de Marigny pâlit un peu et d'un ton plein d'onction répondit « Je ne comprends point votre reproche, monseigneur, ni ce qui le motive. Je ne m'oppose à aucune élection, mon frère agit au mieux, j'en suis sûr, pour aider aux intérêts du royaume, et moi-même, je m'emploie à les servir. » Dans les limites de mon sacerdoce. Mais le conclave dépend des cardinaux et non de nos désirs.
C'est ainsi que vous le prenez. Soit, répliqua Valois. Mais puisque la chrétienté peut se passer de pape, l'archidiocèse de Sens pourrait peut-être aussi se passer d'archevêque.
Je n'entends rien à vos paroles, monseigneur, sinon qu'elles sonnent comme une menace contre un ministre de Dieu.
Serait-ce Dieu, par hasard, messire archevêque, qui vous aurait commandé de détourner certains biens des Templiers ?
Dit alors d'Artois.
Et pensez-vous que le roi, qui est aussi le représentant de Dieu sur la terre, puisse tolérer, en la chair cathédrale de sa maîtresse-ville, un prélat déshonnête ? Reconnaissez-vous ceci ?
Et il tendit au bout de son poing énorme la décharge remise par Ptolémée.
C'est un faux ! S'écria l'archevêque. « Si c'est un faux, répliqua Robert, hâtons-nous alors de faire éclater la justice. Faites donc procès devant le roi pour qu'on découvre le faussaire. »
La majesté de l'Église n'aurait rien à y gagner.
« Et vous tout à y perdre, j'imagine, monseigneur. »
L'archevêque s'était assis dans une grande cathèdre. « Ils ne reculeront devant rien, pensait-il. Son acte frauduleux remontait à plus d'un an. Les profits en étaient mangés. 2000 livres... dont il avait eu besoin, et toute sa vie allait s'écrouler pour cela. Le cœur lui cognait dans la poitrine, et il se sentait ruisseler de sueur sous ses vêtements violets.
« Monseigneur Jean, dit alors Charles de Valois, vous êtes encore bien jeune, et vous avez un bel avenir devant vous dans les affaires de l'Église comme celles du royaume. Ce que vous avez commis là !»
Il cueillit avec superbe le parchemin aux doigts de Robert d'Artois.
« Est un errement excusable dans ce temps que toute morale se défait !» Vous avez agi sous de mauvaises incitations. Si l'on ne vous avait pas commandé de condamner les Templiers, vous n'auriez pas eu lieu à trafiquer de leurs biens. Il serait grand dommage qu'une faute, qui n'est après tout que d'argent,
ternit l'éclat de votre position et vous obligea à disparaître du monde. Car si cet écrit venait aux yeux du Conseil des Pères, en même temps qu'à ceux d'un tribunal d'Église, malgré le dépit que nous en aurions, cela vous conduirait tout droit en la cellule d'un couvent.
À la vérité, monseigneur, vous accomplissez un bien plus grave manquement en servant les agissements de votre frère contre les vœux du roi. Pour moi, c'est la faute que je vous reproche avant tout. Et si vous acceptez de dénoncer cette seconde erreur, je vous tiendrai volontiers quitte de la première.
« Que m'imposez-vous ? » demanda l'archevêque.
« Abandonnez le parti de votre frère qui ne vaut plus rien, et venez révéler au roi Louis tout ce que vous savez de ces méchants ordres touchant le conclave. »
Le prélat était de pâte molle. La lâcheté lui venait spontanément dans les heures difficiles. La peur qu'il ressentait ne lui laissa même pas le temps de penser à son frère auquel il devait tout. Il ne songea qu'à lui-même, et cette absence d'hésitation lui permit de garder une apparente dignité dans le maintien.
« Vous m'avez ouvert la conscience, dit-il, et je suis prêt, monseigneur, à racheter mon erreur dans le sens que vous me dicterez. J'aimerais seulement que ce parchemin me fût rendu. »
« C'est chose faite, dit le comte de Valois en lui remettant le document. Il suffit que monseigneur d'Artois et moi-même l'ayons vu. Notre témoignage vaut devant tout le royaume. Vous allez nous accompagner dans l'instant à Vincennes. Un cheval vous attend en bas. »
L'archevêque se fit donner son manteau, ses gants brodés, son bonnet, et il descendit lentement, majestueusement, pressé dans les deux barons.
« Jamais, murmura d'Artois à Charles de Valois, jamais je n'ai vu homme au monde ramper avec une telle hauteur. »